Donc, on va rester ici pour, sur ce lien pour un petit moment de clôture, pour clore ce colloque. Alors, je rassure tout le monde, ça sera extrêmement rapide. Alors, d'abord, je crois qu'en plus de la qualité des travaux, nous pouvons nous féliciter, hein, encore une fois, du nombre important de participants. Alors, bien sûr, hein, si les 280 inscrits annoncés en début de colloque n'ont jamais été là, tous en même temps, hein, bien sûr. On a quand même eu des moments où il y avait une centaine de participants qui assistaient et participaient aux travaux, ce qui est assez considérable. Et au nom des associations, donc des cinq associations partenaires de ce colloque, nous ne pouvons que nous en réjouir, nous réjouir de cet intérêt manifeste, hein, pour l'histoire de l'enseignement, apprentissage des langues et de leur diffusion. Nous n'allons pas faire avec Véronique Castellotti, une conclusion ou une synthèse très approfondie, tout simplement, et pour être parfaitement honnête, hein, par manque d'énergie. La technologie et Zoom permettent certes de nombreuses choses, et notamment, hein, comme je viens de lire, l'élargissement de l'audience des colloques. Mais 3 jours à distance, sur écran, c'est épuisant pour tout le monde, je crois, et peut-être encore un peu plus pour les organisateurs. Et donc, ces conditions ne nous ont pas permis d'avoir je dirais, une qualité de concentration constante sur les 3 journées, qualité de concentration pour esquisser, hein, une synthèse qui soit autre chose qu'un résumé un peu convenu des différentes interventions. Et nous ne rendrons pas hommage à la grande diversité, hein, des périodes, des contextes historiques qui ont été traités durant ces 3 jours en tentant cette synthèse dans ces conditions. Alors, néanmoins, et on en a un peu discuté avec Véronique, si nous devions retenir une idée forte, hein, de ces 3 journées d'échange, de ce colloque, ce qui n'est pas une chose aisée, hein, de tirer une idée de tout cela, c'est peut-être que quand même que la périodisation, donc cette histoire récente, contemporaine ou du temps présent, la thématique du colloque, l'histoire des idées dans la recherche, et également sa dimension contrastive, hein, avec l'implication de collègues d'horizons différents. Ces 3 dimensions nous ont amené, hein, lors de ces journées d'échange, à des articulations souvent explicites entre passé, présent et avenir. Ce qui était d'ailleurs, hein, je crois, un des souhaits des initiateurs de la recherche historique sur l'enseignement et l'apprentissage et la diffusion des langues, éclairer le présent et l'avenir par le passé, mais aussi, de manière complémentaire, éclairer le passé par le présent, qui est l'autre partie de la tâche de l'historien qu'Henri Besse aime à rappeler souvent, et qui était également perceptible dans la citation de Robert Galisson que donnait Véronique Castellotti en clôture de la table ronde d'hier. Alors, ces articulations sont, nous a semblé, hein, particulièrement ressorties des moments pleniers. Et ce qui est également ressorti de ces moments et des ateliers aussi, hein, c'est que penser ces articulations nous a amené à une manière de faire l'histoire qui ne se prive pas aussi d'être politique, hein. Une approche historique n'empêche aucunement les prises de position, et on a pu le constater pendant ces 3 journées. Alors, il nous a semblé que ce qui ressortait, hein, de certaines des discussions qui ont eu lieu et jusqu'à maintenant, là, c'est que relever le défi que se sont fixés, hein, les associations partenaires de ce colloque, à savoir d'inlassablement promouvoir l'histoire de l'enseignement et apprentissage des langues et de leur diffusion, que pour poursuivre ce but, il peut être intéressant d'accepter de faire une histoire qui reconnaît et assume éthiquement les projets de celles et ceux qui la font. Et proposer la lecture d'archives ou de témoignages historiques avec un projet précis ne nous semble pas être un problème en soi, si ce projet est assumé en tant que tel, avec une tentative d'explication, d'explicitation de ce qui motive ce projet et ce qui fonde ce projet. Et cette histoire, hein, converge par ailleurs avec certaines prises de position bien connues dans le champ des études historiques. Alors, ces aspects ont d'ailleurs été abordés ouvertement, je crois, dans les discussions qui ont suivi les conférences, et notamment la conférence d'ouverture de Daniel Coste, quand la notion, alors notion certes très polysémique, hein, de point de vue, a émergé dans les débats. Et nous pensons que la poursuite de ces débats mérite sans doute de se faire collectivement et de manière plus approfondie. Les quelques mots de clôture que je prononce maintenant n'ont vraiment d'autres ambitions que de contribuer à formuler la question, ou plutôt la reformuler ou la re-reformuler, hein, puisque nous avons bien conscience, hein, de ne rien inventer ici, l'histoire ayant l'indéniable avantage de nous inviter à la modestie. Mais ce qui nous a semblé assez net, tout de même, avec Véronique, c'est que dans les ateliers, lors de la table ronde, comme dans les conférences de Daniel Coz, Nicolas McLellan et celle que Javier Solopez vient de prononcer, la question politique a significativement été assez prégnante dans les présentations comme dans les échanges. Et ce qui, pour un colloque sur l'histoire des idées en didactique des langues, n'était peut-être pas évident de prime abord, en tout cas. Donc, pour poursuivre un peu cette idée sur un autre plan, peut-être, il nous semble que le projet même des initiateurs des recherches historiques sur l'enseignement-apprentissage des langues était, d'une certaine façon, également un projet politique, hein, asseoir la légitimité de disciplines en construction, en cours d'autonomisation, en cours de consolidation, pardon, que ces disciplines, hein, s'appellent didactique des langues, didactologie ou linguistique appliquée ou applied linguistique ou linguistique applied. Le projet d'asseoir la légitimité de ces disciplines naissantes en leur donnant une histoire et en documentant donc cette histoire. Dans un même ordre d'idées, nous pouvons, et nous faisons, je crois, chacun à notre manière dans nos associations respectives, nous pouvons choisir d'assumer le rôle engagé de la recherche historique sur l'enseignement-apprentissage des langues, ce qui est certainement complémentaire d'autres façons, tout aussi légitimes, de faire l'histoire de ce champ. Assumer ce rôle engagé en l'orientant vers des enjeux qui nous semblent collectivement importants pour notre présent et notre avenir, donc dans cette idée d'articulation de ces temps historiques. Cela est déjà le cas, hein, et l'ambition de ce colloque était de redire qu'intégrer historiquement les débats contemporains avec des projets qui peuvent être divers et variés ne pervertit aucunement à la recherche historique, mais au contraire l'enrichit, la renforce, la rend intéressante à bien des égards, notamment, et je terminerai là-dessus ces quelques réflexions, dans une perspective, par exemple, hein, d'utilisation de cette histoire dans la formation des enseignants de langue, au-delà de la seule histoire des méthodologies qui est souvent présente, et ce qui sera peut-être un des thèmes d'une prochaine manifestation scientifique commune. Alors voilà pour quelques propositions conclusives bien rapides, qui, comme je le disais, ne rendent bien sûr pas hommage à la grande richesse des apports des intervenants et des participants. On en a bien conscience, on s'en excuse, et on remercie à nouveau, hein, très chaleureusement les intervenants qui ont donné corps donc à ce colloque, que l'on invitera par ailleurs, hein, par la suite, à publier le fruit de leurs réflexions, et une sélection donc de ces travaux sera probablement publiée dans les documents pour l'histoire du français langue étrangère et seconde, que l'on va contacter, hein, avec Véronique à cet effet. Alors, juste une petite précision, hein, conformément à la ligne éditoriale de la revue et également de ce colloque, hein, la dimension historique sur la période considérée est bien sûr importante, et histoire de la recherche, hein, pour reprendre la thématique du colloque également. Mais on rediscutera de tout cela plus en détail avec vous par mail en vue de la réalisation donc, de ce projet éditorial. Enfin, pour terminer, hein, et parmi les remerciements importants, l'absence de secrétariat pour l'organisation de ce colloque, hein, qui nous a un peu compliqué la tâche avec Véronique, on a quand même eu la chance de pouvoir compter sur le précieux appui de deux étudiants, Laura Nicole et Clément Blé, qui ont géré la logistique de manière très efficace. Donc, merci vraiment à eux pour leur aide, qui a été très, très précieuse. Voilà, alors on a choisi de laisser le mot de la fin aux associations partenaires du colloque, ou en tout cas celles qui ont pu se libérer, hein, pour présenter leurs travaux et leurs projets, et éventuellement, hein, c'est une proposition, livrer leurs impressions à chaud sur le colloque. Donc, Richard Smith pour la Henry Street Society et le réseau HALT, Despina Proata pour la CIFLES, Félix Saint-Vincent de San Diego pour la CIRCIL, et je dirais juste un mot de la part d'Anna Clara Santos pour l'AFEL, l'association portugaise. Voilà, je laisse la parole à qui veut la prendre maintenant, dans la langue, hein, qu'il ou elle souhaite utiliser. Richard, Despina, Félix. Qui veut commencer? Vas-y, Richard.
D'accord, je commence peut-être.
Oui, vas-y.
Oui, je commence en vous remerciant beaucoup à Marc et Véronique et les étudiants pour cette conférence. Je vais essayer de parler en français parce que je pense que maintenant c'est la langue commune aujourd'hui. Excusez mes fautes, s'il vous plaît. C'était une très bonne conférence. Je parle pas personnellement, pas de la part de Holdnet. J'ai beaucoup appris beaucoup de choses sur la linguistique appliquée française. Et j'ai fait des et aussi de Nicolas sur la situation en Angleterre. Aujourd'hui, de Javier, j'ai réfléchi un peu sur les comparaisons avec la linguistique appliquée en Angleterre et en France. Et je pense que c'est ça, pour moi, la valeur de ces conférences interassociationnelles, qu'on peut faire des comparaisons entre les différentes traditions de l'enseignement des différentes langues, traditions dans les différents pays. Mais comme l'a dit dans un article, dans un chapitre, à Marcus, il a dit dans ces conférences comme celle-ci, on juxtapose, il y a des juxtapositions de différentes perspectives. Et pour l'avenir, je réfléchis, et c'est pour nous tous de faire les comparaisons dans nos têtes, je pense. Mais peut-être qu'on peut le faire plus explicitement à l'avenir, dans les conférences interassociationnelles. Parce que c'est pour moi, en tout cas, c'est là la valeur d'une conférence interassociationnelle et pas seulement CIFLES. Oui, c'est comme tu l'as dit, Marc, c'est l'histoire du temps plutôt récent. Là, ça a une valeur particulière. On a pu avoir les témoignages de Daniel Coss, par exemple. Et moi, j'ai été trouvé particulièrement émouvant à la table ronde d'hier sur Robert Galisson, que je n'ai pas connu, je n'ai pas lu. C'était très très bien d'entendre écouter les différentes perspectives sur Robert Galisson. Je pense, ça m'a fait réfléchir que, comme je crois que tu l'as dit, Marc, je ne sais pas si j'ai bien compris, je crois qu'on peut avoir un projet ensemble de recueillir les témoignages de Daniel, de Henri Best, de tous ces gens qui étaient fondateurs, en quelque sorte, de nos pensées d'aujourd'hui. Et je crois, je suis d'accord, on devrait le faire. Et ça m'a fait réfléchir aussi que tout ce qu'on a discuté a une grande valeur pour les enseignants d'aujourd'hui. Et il faut réfléchir à comment on peut introduire ces discussions aux enseignants d'aujourd'hui, dans la formation, mais aussi attirer, je pense que ça, une histoire du passé récent, ça peut attirer encore des chercheurs, parce que on parle des concepts, de l'approche communication, etc., etc., qui sont toujours en discussion. Et je pense que on peut faire ça aussi. Oui, peut-être deux choses. J'ai pensé on aurait pu discuter plus l'histoire de la recherche, des méthodes de recherche, etc. On s'est concentré beaucoup sur les idées, sur l'institutionnalisation, universitarisation, etc. L'histoire des méthodes de recherche dans notre domaine, quoi que ce soit, reste à faire peut-être. Aussi, sur toute cette période-là, je pense que tu l'as dit aussi. C'est une période de décolonisation, de néocolonialisme, peut-être, et peut-être encore des réflexions là-dessus, je pense. Bon, je vais vous remercier beaucoup de cette conférence merveilleuse dans des conditions très très difficiles. Et vous avez été très calme et très, je veux dire, efficace dans tout ce que vous avez fait pour nous. Merci. Bon, à Holtnet, je vais parler un peu là-dessus. C'est notre association History of Language Learning and Teaching Network. Bon, on appelle ça Holtnet parce que Holt, c'est peut-être un champ de recherche, History of Language Learning and Teaching, qui, comment dire, which brings together people, teachers, researchers from different languages and in different parts of the world. And I've put the link into the chat for you. And if I just share my screen, so this is our website. Vous voyez à Holtnet, vous pouvez lire en plusieurs langues. Tout le monde peut bon, je vais parler en anglais. Anybody can join HaltNet. There is no fee. It is free. So you just HaltNet. To join HaltNet means to join the discussion list, and it is a mailing list where you can receive information about conferences. I encourage all of you who write articles, please do write about your article, publicize your work through this mailing list. There is also a Facebook group, and we also share information in the Facebook group, of course free to join. Recently we were not so active for reasons, obvious reasons. But we have several events. We support this event, and I put the program abstract there. Our next event is a book launch for the book edited by Simon Coffey on the history of grammar in foreign language teaching. Please come. You're very welcome to come. Anybody. You don't have to be a member. And please publicize these events to any of your students or anybody that you think would be interested. We're quite proud or happy to be focusing on women in the history of language learning teaching. We are a research network of AILA, Association Internationale de Linguistique Appliquée. And we have to always have a symposium at the AILA conference, bien que ce soit très cher. Et c'est tout en ligne cette année, this year, and je trouve personnellement c'est trop cher pour une conférence en ligne. Et bon, pas tout le monde peut venir qui voulait faire une conférence. Donc, on prépare une autre colloquium complètement gratuite, et vous êtes les bienvenus, tout le monde ici. À présent, il y a Call for Papers, donc le même thème, Women in the History of Language Learning Teaching, 17 septembre, avec Zoom, et Call for Papers. Donc, si vous vous intéressez, veuillez, please put in abstract proposal. And then we support some events like CIRSIL conference and in September. Et l'année prochaine, l'an prochain, on espère qu'on aura une symposium aux Pays-Bas sur la l'enseignement des langues et la colonie, les colonies, la colonisation. C'est très grand, on n'a pas encore décidé le titre. OK. Publications, members' publications, on a une liste, resources, etc. You're very welcome to join. Links, c'est intéressant peut-être. Links, c'est des différentes associations nationales ou language-based, comme CIFLES, c'est language-based, le français, langue étrangère. Et c'est la seule, je crois. Mais il y a des national associations, appel, en Portugal, Churchill, Henry VIII Society en Angleterre. Il y a aussi, peut-être c'est intéressant pour vous de voir qu'il y a une association au Japon. En effet, il y a deux associations au Japon, sociétés académiques, pour l'histoire de l'anglais, langue étrangère, au Japon. Il y a aussi au Brésil, pour l'enseignement des langues. Il y avait en Allemagne, je ne sais pas si ça existe toujours, et autrefois, il y avait aux Pays-Bas aussi. Et maintenant, c'est la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, qui est notre partenaire, et CIFLES. Bon. Pour la Henry Street Society.
Oui, est-ce que tu peux juste dire un mot, Richard, pour la Henry Street Society, et puis
Oui,
après je passerai la parole à
oui,
Despina
oui.
pour
Pardon,
la partie.
c'est trop long, je
Ouais,
m'excuse. Oui. Henry Street Society, c'est Nicolas qui est le chair, mais il n'est pas là aujourd'hui. D'accord. C'est plutôt une society pour l'histoire de la linguistique. Mais depuis 2000. En 2014, 2014, we organized this conference in Nottingham as Henry Sweet Society, and we take more interest now in history of language teaching. But mainly, it's a history. It's for the history of linguistics. A few people are interested in history of applied linguistics, and sometimes we have a section in the conference on language teaching. Next year we have a conference in Leuven, and I think we will have a section for language teaching. We have a journal, Language and History, which you can write articles for about history of language teaching. We accept that, and I think there will be a special issue next year, ed edited by Friederike Klippel, on the reform movement. Because we had a colloquium at our conference last year. That's Henry Sweet Society. But you need to join, and you need to pay to join this society. It's based in the UK. We have members in Germany and other countries as well, but it's based in Britain as the main society for the history of linguistics. Thank you, Matt.
Merci beaucoup, Richard. Et donc, autre association partenaire, donc la CIFLES, merci pour ta présentation du réseau HALT et de la Henry Sweet Society, donc, qui sont partenaires de ce colloque. Et la CIFLES avec Despina maintenant, qui va dire un mot pour cette
Oui.
association.
Merci beaucoup, Marc. Et bien sûr, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce beau colloque, ainsi que les intervenants et les discussions qui ont contribué à la réussite de ces journées. Merci donc, Marc. Merci, Véronique, pour toute cette organisation et vos collaborateurs. Je vais aussi. Attendez, je vais partager en attendant l'écran. Et je voulais, au risque de me répéter, bien sûr, dire que pour la CIFLES aussi, l'approche comparative, ça a été évoqué par Richard, hein, cette approche comparative des différentes perspectives est très très importante. On en a parlé hier. Et c'est d'ailleurs, il me semble, un des objets de ce réseau informel des associations qui est mise en place depuis quelques années. Et j'espère qu'on va renforcer nos collaborations. Et on l'a évoqué d'ailleurs hier aussi, comment intégrer les résultats des recherches sur l'enseignement dans la formation des enseignants. Hein, ça aussi, c'est un point qui nous préoccupe également. Alors, je vais partager mon écran comme ça, tout le monde aura l'occasion de voir le site de la CIFLES. Vous la connaissez sans doute, c'est une association qui a été fondée en 1987 à l'initiative d'André Reboulet, et son premier président était Daniel Coste. Nous avons eu l'honneur de l'avoir hier, avant-hier. Alors, au départ, c'était des universitaires de diverses nationalités, des responsables d'institutions francophones ou internationales, il y avait des rédacteurs de revues, et plusieurs des membres fondateurs sont bien sûr toujours très actifs, soutiennent toutes les manifestations. Et la CIFLES n'a cessé de s'enrichir durant toutes ces années, de s'élargir en accueillant des jeunes membres provenant d'autres aires géographiques. Alors, le but de la CIFLES, c'est de promouvoir l'histoire de l'enseignement et de la diffusion du français langue étrangère seconde. Ce qui caractérise la CIFLES, c'est que le profil des membres est très variable. Elle rassemble aujourd'hui des linguistes, bien sûr, des historiens, des spécialistes en didactique des langues et des cultures. Les membres de la CIFLES appartiennent à une vingtaine de pays. La plupart, c'est des pays européens, mais on a des membres aussi aux États-Unis, au Canada, en Turquie, en Russie et autres. Depuis les premiers travaux, les travaux pionniers qui portaient sur les manuels, les recherches menées au sein de la CIFLES concernent également l'histoire des méthodologies, l'histoire des professeurs de français et des apprenants, ainsi que de leur trajectoire. L'histoire des pratiques pédagogiques, l'histoire des institutions d'enseignement. Pour la CIFLES, il s'agit également d'étudier les contextes politiques, culturels, diplomatiques ou autres de l'usage du français et du statut du français dans les différents pays où il a été et est toujours présent. Pour faire connaître les résultats des travaux de ses membres, et aussi pour susciter de nouvelles recherches, la CIFLES dispose de deux moyens. D'abord, l'organisation des colloques réguliers, comme celui que nous assistons. Il y a un colloque organisé par an, il y a aussi des journées d'études, et il y a bien sûr la revue documents. Alors, sur le site de la CIFLES, un tout nouveau site dont nous sommes très fiers, vous pouvez voir l'histoire de la revue, l'histoire de l'association, pardon. Il y a aussi un lien vers la revue documents. La revue documents a bien sûr son propre site sur revue.org. Et là, vous allez voir, il n'y a pas tous les numéros, mais bientôt tous les numéros seront numérisés. Mais ils sont déjà en version PDF ici sur le site de la revue. Donc, vous avez accès dès le premier numéro, voilà, en version PDF, donc sur le site de la CIFLES, en attendant la numérisation sur revue.org. La revue document propose des numéros thématiques, ce sont des actes d'un colloque ou des journées d'études, mais elle propose aussi des numéros banalisés, qui inclut des articles sans thématique commune. Et pour cela, il y a un appel qui est lancé sur le site de la CIFLES, sur le site de revue.org, mais aussi sur les listes de diffusion auxquelles participe la CIFLES. Et il suffit de parcourir le site de la revue pour constater la variété des sujets traités. Hein. Vous trouverez des numéros portant sur les aspects de politique linguistique, de politique éducative, les questions de théorie et de méthode d'enseignement et d'apprentissage. Plusieurs numéros sont consacrés aux manuels, différents manuels, grammaire, dictionnaire, ouvrages théoriques, ouvrages bilingues, etc. La chronologie est très vaste également. La CIFLES s'intéresse du 15e siècle jusqu'à nos jours, comme le montre le colloque de Tours. Jusqu'à ce jour, la revue Documents a publié 65 numéros. Le prochain, numéro double, donc 66-67, sera le dernier en version papier. La revue a décidé de tourner la page et on passe à une édition exclusivement électronique, donc sur revue.org, en accès ouvert. Et quant aux colloques, vous les avez. Vous pouvez également voir l'historique des colloques sur le site de la CIFLES. Et vous avez constaté la diversité. Ces colloques sont co-organisés avec des institutions universitaires comme Tours, bien sûr, mais je peux citer d'autres, hein. Algarve, Grenade, Athènes, Mons, Essen. Il y a une très grande variété, la liste est très très longue. Et dans ces rencontres, nous avons l'occasion de rassembler des chercheurs venus d'horizons géographiques très très variés et d'horizons universitaires aussi très très variés. variée. Un dernier mot qui me semble important pour la revue. Comme nous souhaitons attirer des jeunes chercheurs, dans la revue Documents, il y a une rubrique compte rendu dans laquelle les jeunes doctorants peuvent publier des comptes rendus de leur thèse. C'est une occasion donc de faire connaître, de diffuser leurs travaux. Et enfin, la CIFLES publie aussi, diffuse une lettre, la lettre de la CIFLES, une fois par an. Cette lettre assure un contact régulier entre les membres de la société, les tient informés non seulement de la vie de la CIFLES, mais aussi de l'actualité, de la recherche, du programme, des rencontres futures, publie des appels à contribution, etc. Pour finir, notre préoccupation majeure, c'est de pouvoir élargir le champ de recrutement d'un point de vue géographique d'abord, et avec une plus grande représentation des pays du Sud notamment, des pays de l'Europe de l'Est, qui participent à la constitution d'un espace francophone important. Et de manière générale, nous souhaitons nous ouvrir davantage encore au monde. C'est ça notre souhait, le but de ce nouveau site. Et donc, nous invitons tous ceux et celles qui sont intéressés par les différents aspects du français langue étrangère ou seconde de se joindre à nous. Merci.
Merci beaucoup, Despina, pour cette présentation.
Ah, pardon, j'ai oublié, oui. Marc, excuse-moi, un dernier mot. Le prochain colloque de la CIFLES, si vous permettez, je vais l'annoncer, ce sera pour l'année prochaine à Chypre. Et il porte sur le sujet retenu, c'est la langue en échantillon, histoire de l'exemple dans les ouvrages du français, langue étrangère ou seconde, du 16e au 20e siècle, et l'appel sera bientôt mis en ligne sur notre site. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Despina, pour cette présentation donc, de la CIFLES, autre association partenaire de ce colloque. Et je vais tout de suite laisser la parole pour quelques minutes à Félix Chavincente pour la CIRCIL, donc l'association italienne dont je ne me risquerai pas à prononcer la titulaire en italien.
Je voudrais partager mon écran.
Oui,
mon écran.
Vous pouvez le partager sans problème.
Comment est-ce qu'on fait?
Alors, vous avez partagé l'écran normalement en bas de votre photo, de votre image. Une petite flèche verte.
Une petite
flèche verte qui va vers le
haut. Ok. Ouais. Écoute. Si belle adesso.
Non.
Allora.
Oui, c'est bon. Voilà, ça arrive.
Voilà. Ah, ok. Bene, bene. Grazie, grazie. Io parlerò in una lingua che ho imparato, che è l'italiano, e quindi a dimostrazione anche che le lingue non si imparano mai. E quindi mi scuso se non parlerò in francese, ma ad ogni modo sarò brevissimo, perché ormai siamo alla fine del colloquio, non voglio intrattenere nessuno con... Ma intanto mi unisco alle parole già dette da Despina, da Richard, sul valore che ha avuto questo incontro, no? Sulla dimensione interassociativa che senz'altro arricchisce le nostre conoscenze e le nostre prospettive. Del resto, questo incontro sulla storia dell'insegnamento è venuto fuori in un momento in cui, insomma, sembra che la pandemia possa rimanere per ora all'atto, però tutto sommato parlare della storia e della impronta che la storia ha avuto sulle nostre vite e sulle nostre professioni mi sia il miglior modo di ripartire. Io vi parlerò molto brevemente del CIRCIL, anche perché molti di voi lo conoscono. I primi incontri del CIRCIL nascono intorno a persone care che conoscete come Minerva, Lillo, alcune altre che adesso forse sto dimenticando, però già alla fine degli anni Ottanta, quando non esistevano ancora gli insegnamenti linguistici, questa è una peculiarità dell'Italia, cioè esisteva l'insegnamento della letteratura, però c'erano delle persone interessate alla lingua e agli insegnamenti linguistici. Allora abbiamo incominciato a lavorare, il primo volume che abbiamo prodotto è dell'89, poi Nadia Minerva, Pellandra, Lillo hanno partecipato alla CIFLES, quindi alla nascita del CIRSI si trova la lingua francese, quindi in certo modo, fra virgolette, potrebbe essere una derivazione iniziale della CIFLES. Di cosa ci siamo occupati? Ci siamo occupati inizialmente di recuperare i materiali, vale a dire lessicografia, grammatipografia, e quindi i primi contributi sono stati questi, repertoriare il materiale prodotto in Italia per l'insegnamento della lingua francese. Poi il CIRSIL nasce nel 2002 e quindi nasce come un consorzio interuniversitario italiano. Vale a dire, rappresenta 13 università, i rappresentanti sono nominati dal rettore di ogni ateneo e quindi ha questa dimensione formale che sul piano economico non vuol dire nulla, perché tutto sommato noi non abbiamo un capitolo di spese e quindi come CIRSIL non riceviamo nulla direttamente dal ministero o dall'università. Il CIRSIL ha un prestigio e quindi questo ci ha permesso di fare delle ricerche, ma sempre a titolo individuale o di gruppo, ma non come CIRSIL, non come associazione. In questo modo siamo andati avanti in questi anni, ormai siamo arrivati al 20°, con argomenti che interessavano le persone associate, sempre in crescita, più di un centinaio, in particolare italiane, ma anche di altri paesi, però ha questa caratteristica del plurilinguismo. Vale a dire, noi organizziamo i convegni e le pubblicazioni intorno ad un argomento. Gli argomenti sono stati diversi, quindi inizialmente il ruolo della grammatica negli insegnamenti linguistici, oppure posso ricordare diversi di attualità, come è stato per esempio il discorso del genere, il discorso di genere. Insomma, sono tutti argomenti che potete trovare lì all'interno di questa pagina. Qui, per esempio, nelle attività, vedete le attività per ogni anno. E poi i quaderni. Anche i quaderni, facciamo di solito un incontro annuale e poi c'è la pubblicazione. Non sempre la pubblicazione viene sul quaderno, perché immagino che anche voi avete lo stesso problema, vale a dire gli atti del convegno dal punto di vista accademico valgono poco. Quello che da noi conta è soltanto la pubblicazione in riviste che siano state valutate dal nostro ministero come serie A. Per il resto si fa fatica. Noi abbiamo mantenuto il quaderno per dare vita alla nostra società, ma pubblichiamo anche al di fuori del quaderno. Poi qui abbiamo una bibliografia con i lavori pubblicati dai nostri associati, quindi si può andare a consultare qui per tutte le lingue, per gli autori, e viene fuori quello che facciamo. È una bibliografia che rinnoviamo ogni 2 anni, però insomma, se uno vuol sapere cosa fanno gli associati CIRSIL può andare direttamente lì. Io adesso, ritornando all'importanza dell'associazione e allo stimolo che devono avere i giovani, lancio qui l'idea, forse non è il momento opportuno, però un stimolo per i giovani e per tutti sono i premi. I premi sono sempre così una sorpresa, però se noi come associazione riuscissimo a erogare un premio, non necessariamente un premio in soldoni, non in Ashan, ma un premio che riconosca il lavoro che fanno i nostri giovani, sarebbe qualcosa di stimolante. Del resto, noi, finisco anche sul versante quasi politico, come dicevo ieri con i colleghi, se vogliamo fare qualcosa adesso per l'apprendimento linguistico, dobbiamo andare al patrimonio culturale, vale a dire a recuperare i testi e a digitalizzare, che voi in francese adoperate un'altra parola, però spero abbiate capito, digitalizzare, non mi ricordo bene come si dice. E quindi noi siamo stimolati a proporre i nostri testi aperti a tutti e consultabili a tutti. Questo è lo stimolo che ci arriva adesso con il Recovery Fund. Ci sono molti finanziamenti, però l'orientamento che ci hanno dato è questo. Bene, io vi ringrazio, ringrazio ancora Marco e Veronique per la disponibilità e per l'invito a partecipare e spero che se non ci vediamo a Cipro ci vedremo, non so se è stato annunciato, a Faro, forse verrà annunciato prossimamente. Un caro saluto a tutti.
Merci beaucoup Félix pour cette présentation donc de la CIRCIL. Je profite pour mettre dans le chat, sur la page de la CIFLES, il y a les liens vers les associations partenaires. Donc j'ai mis aussi le lien du site qui est en partage d'écran. Est-ce que Félix, vous pourriez arrêter votre partage d'écran peut-être que Félix a diffusé. Voilà, donc juste un mot concernant l'association portugaise pour l'enseignement des langues et littératures étrangères, puisque Ana Clara Santos ne peut pas être présente parmi nous pour représenter cette autre association partenaire. Elle m'a juste dit de vous indiquer que un colloque allait avoir lieu en 2021. Alors, qui n'est pas à l'Université d'Algarve au Portugal, en décembre 2021, les 2 et 3 décembre, sur l'enseignement et apprentissage des langues étrangères dans l'enseignement en présentiel et en ligne, héritage, perspectives et défis, qui n'est pas spécifiquement historique, mais qui a un axe de recherche sur l'histoire des 2 dernières décennies, donc les héritages. On vous enverra l'appel à communication pour ce colloque donc, qui aura lieu au Portugal en décembre. Voilà, et pour la dernière association partenaire, donc la Société espagnole d'historiographie linguistique, la SEHL, vous avez aussi le lien sur le site de la CIFLES, et donc malheureusement, il n'y a pas de représentant qui était disponible aujourd'hui pour nous présenter cette dernière association partenaire. Voilà, il me reste, on termine pile à l'heure, à 13h, et il nous reste encore à remercier tout le monde pour leur participation à ce colloque qui se termine donc maintenant. Véronique, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Non, la même chose que toi. De toute façon, on a préparé les choses ensemble. Donc, dire encore merci à tout le monde et en espérant qu'on se retrouve pour d'autres aventures historiques bientôt.
Merci à toutes et à tous.
Est-ce que je peux dire quelque chose sur la selle, s'il vous plaît?
Ah, pardon. Mais écoutez, je n'avais pas noté, mais il me semblait que je ne sais pas.
Ne vous inquiétez pas.
Oui, alors juste, pardon.
Ouais. Muy rapidamente, rapidamente. Je vais partager... Estoy compartiendo la pantalla rápido.
¿Sí? Oui, c'est bon. Pardon,
excusez-moi. Oui, c'est bon.
Merci. Bueno, queridos amigos y compañeros historiográficos, desde esta sociedad nuestra, de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, os agradecemos muchísimo la oportunidad de comentaros un poquito cuál es nuestra actividad y sobre todo esta colaboración interasociativa. No voy a hablar sobre esto porque estamos todos verdaderamente contentos sobre esto. Y os felicitamos por este encuentro que habéis tenido, tan, tan enriquecedor. Y bueno, está claro que este clúster, digamos, de historia, de la didáctica de las lenguas, era necesario, funciona y tiene que continuar. Y quiero que sepáis que contáis con nuestra colaboración y estaremos muy contentos de poder trabajar con vosotros. Para nosotros, en esta asociación, desde su creación en 1995, ya la historia de la didáctica del español, bien como lengua materna, en contextos monolingües o incluso en contextos bilingües, o también la historia del español como lengua extranjera, ha sido siempre un pilar muy, 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 muy importante. Y esto es así hasta el punto de que durante un siglo, desde 1492 hasta 1614, no había gramática española publicada en España, sino que se exporta al extranjero. Entonces, este es uno de los, digamos, motores que ha hecho que se investigue mucho sobre este tema. Solo os quiero comentar, y que estáis viendo la página de nuestra sociedad, aquí tenéis un poco la junta directiva, tenemos también, como el resto de asociaciones, un boletín. Y en ese boletín es anual y publicamos no solo en español, sino también en otras lenguas. Y os animamos a que estáis interesados, pues publiquéis en este boletín. Están digitalizados desde 2002 los números hasta el 2019. Hasta el 2016 eran bianuales y ahora son anuales. Y también queremos aprovechar digamos, esta oportunidad para... a ver si encuentro enseñaros nuestro congreso. Si lo veo, me estoy yendo para abajo. A ver, aquí. Tenemos un próximo congreso que se va a celebrar en Valencia el año que viene. Y desde nuestra asociación, digamos, de las lenguas oficiales de España, también de la península, y no solamente hacemos cosas sobre el español, sino también sobre el latín, por ejemplo. Así que sois muy, muy, muy bienvenidos a participar. Hasta el 30 de septiembre aceptamos propuestas y nada, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de hablar con vosotros.
Merci beaucoup, Carmen. Et encore mes plus plates excuses pour cet oubli. C'est un mail qui est passé à travers les mailles du filet. Bon, je suis désolé et merci pour cette présentation donc de la SEHL. Voilà. On peut terminer maintenant, clore ce colloque et remercier encore à tous les participants. Et à très bientôt donc, pour les prochains événements scientifiques que les collègues ont évoqués dans les diverses associations, et puis pour un colloque interassociation qui aura a priori lieu dans 2 ans, en 2023, le prochain colloque interassociation. Bonne journée à tous et à tous. Au revoir.